RFI, grand reportage.
Sonia Ghezali.
Grand reportage consacré ce vendredi 15 août à un anniversaire. Le canal de Panama fête aujourd'hui ses 100 ans. C'est l'une des prouesses techniques du 19e siècle construite par le comte français Ferdinand de Lesseps. Concession des États-Unis au départ, le canal a finalement été rendu aux Panaméens en 1999. Depuis 2007, date d'un référendum au cours duquel les Panaméens ont voté pour un élargissement du chenal, un énorme chantier a été lancé. Il doit s'achever fin 2015. Le canal sera plus grand et pourra alors accueillir les porte-conteneurs de plus en plus volumineux et de plus en plus nombreux. De quoi accroître les bénéfices. Reportage de François Musso.
Le chantier est divisé avec 4 fois 2 portes d'écluse et 3 bassins. D'un bassin à l'autre, on récupère une dénivellation en allant vers l'océan de 9 mètres. C'est-à-dire que quand le bateau aura traversé les 3 écluses, il aura descendu en moyenne de 27 mètres. Oui, j'ai travaillé sur des écluses en France et en Belgique avant de venir ici au Panama. Celles-ci sont d'une grandeur, sont beaucoup plus grandes. C'était vraiment un gros challenge, comme se dire 2,5 millions de mètres cubes de béton. C'est énorme. Et je suis vraiment content d'avoir participé à ce projet.
Nicolas Poulvirendi n'est pas peu fier. Ce jeune ingénieur belge participe à un des chantiers les plus gigantesques de la planète. Quelque chose de comparable au barrage des Trois Gorges en Chine. Nous sommes le long du canal du Panama devant des blocs de ciment armé de 40 mètres de hauteur et c'est très impressionnant. D'ici fin 2015, c'est par ces nouvelles écluses que passeront les post-Panamax, ces embarcations de 45 mètres de largeur qui ne peuvent pas passer par les actuelles écluses, celles qui datent d'il y a 100 ans. Aux côtés de Nicolas, il y a Luis Villarreal, panaméen, un des dirigeants du consortium chargé de ces travaux herculéens.
Et les grandes avantages vont être que les grands barcos post-Panamax vont transporter.
Le grand avantage de ce canal élargi, c'est que les post-Panamax, ces grands navires, peuvent charger presque 3 fois plus que les navires qui passent actuellement. Cela signifie des économies d'échelle pour les grandes multinationales, de bien plus grands bénéfices, outre le volume de charge et la rapidité avec laquelle les bateaux traverseront le chenal. Tout cela va changer le commerce maritime mondial et tous les grands pays s'y préparent.
Para estos beneficios que van a tener.
D'où parle le dirigeant, c'est une vue spectaculaire. Devant nous, des grues et des camions dans un vacarme assourdissant. Derrière nous, le début du canal, côté Pacifique et au loin, la ville de Panama et ses gratte-ciel, une sorte de Shanghai sous les tropiques. À l'entrée de cette capitale, au sommet de la colline Ancon, se tient l'ACP, l'autorité du canal du Panama, un organisme étatique et indépendant qui a commandité ces travaux pharaoniques. Il y a Espino de Marota et la vice-présidente des programmes.
Bueno, para la autoridad, más responsabilidad.
Pour l'autorité du canal, c'est plus de responsabilités, des clients nouveaux, une manière de fonctionner différente, surtout avec les techniques de pilotage des remorqueurs, une infrastructure plus grande qu'il faut surveiller et aussi des revenus plus grands pour le Panama. Plus vite le troisième jeu d'écluses sera terminé, mieux ce sera pour nous car nous avons plein de clients nouveaux qui attendent pour traverser le canal, notamment des grands ports des États-Unis avec qui nous avons déjà signé des contrats. En résumé, plus de navires, plus de charges, tout cela est financièrement juteux pour l'État.
Pour le pays, le canal est un objet de grande fierté. Il avait été construit et possédé par les Américains depuis le début du XXe siècle et sa restitution au Panama en 1999 a été vécue ici comme une grande victoire. Ce couloir de 80 km de long et de 3 km de large avait vécu d'eau au pays. Il fallait l'intégrer de nouveau. Poursuit Ilia Espino de Marota.
La verdad que había bastante desconocimiento del canal cuando fuimos.
Quand on a commencé à communiquer sur le canal dans le reste du pays, il y avait beaucoup d'ignorance. Pourquoi ? Eh bien, il faut dire que malgré la rétrocession par les États-Unis, les gens ne se sentaient pas en possession de cette zone du canal. On a donc fait un gros effort pour rapprocher le canal des Panaméens. La gente conozca lo que es el canal de Panamá.
Yes. Judith est guide le long des écluses de Pedro Miguel au beau milieu du canal, des écluses qui datent d'un siècle avec leurs portes de 50 mètres de hauteur. Elle montre des photos noires et blancs où on voit ces travailleurs qui, vers 1900, étaient victimes de maladies tropicales, surtout la fièvre jaune. Judith fait partie des 10 000 salariés du canal, des salariés qui se savent privilégiés, mieux payés que dans le reste du pays et au service d'une entreprise prestigieuse. Elle aussi sait la difficulté de convaincre les Panaméens que le canal leur appartient désormais. Il y a 15 ans, elle fut envoyée dans l'intérieur du pays pour prêcher la bonne parole.
Raconter aux gens cette histoire n'a pas été facile. Je dirais même que ça a été un véritable parcours du combattant. Expliquer au pays pourquoi il fallait élargir, agrandir le canal, que le canal faisait partie de notre culture et de notre vie, ça a été très dur. Je me souviens qu'il nous fallait aller jusqu'au fin fond du Panama. Mais nous, les salariés, on était les meilleurs ambassadeurs pour justifier ces travaux gigantesques.
Le territoire du canal du Panama est un monde à part. Ce sont 12 000 bateaux qui passent par jour, 3% du commerce mondial et aussi des gens qui œuvrent venus de toute l'Amérique latine, mexicains, colombiens, chiliens, cubains. Felicito Otoño est panaméen, il est topographe et il travaille depuis 17 ans.
Es pocos lugares en el mundo donde se ven estos tipos de trabajo.
Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on voit ce genre de travaux. Tant d'écluses, un tel trafic de bateaux, tout le processus pour acheminer ces embarcations, des administratifs jusqu'aux ouvriers, c'est une entreprise qui œuvre pour l'extérieur, qui offre des services aux pays du monde entier.
Non loin de là, à deux pas des écluses de Pedro Miguel, on aperçoit un lotissement en bois où habitaient les anciens employés. Aujourd'hui, y vivent des gens à la retraite, à l'instar du sexagénaire Thomas Valencia, ancien professeur de sport dans des collèges voisins. Petit-fils de Jamaïcains qui ont travaillé dur pour construire le canal, il a connu la ségrégation raciale puisque c'était territoire des Américains. Ses 9 frères et sœurs sont partis vivre aux USA, mais lui, qui a la double nationalité et une retraite honorable, se trouve très bien ici.
Panama est très important pour le reste du monde. Ça, c'est magnifique. Moi, je suis devenu panaméen. Et le fait que le canal ne cesse de se développer, eh bien, c'est un plus pour nous. Je pense surtout à mes enfants. Grâce au fond du canal, ils ont pu aller à l'université, partir à l'étranger, apprendre l'anglais et l'espagnol, obtenir des masters et des doctorats. L'éducation, c'est essentiel. Mon père me l'a appris. Il me disait, si tu veux vivre bien, parie sur l'enseignement.
Aide Villarreal est une jeune fille qui travaille dans la communication et la culture, dans la capitale. Pour elle, comme pour la majorité des 3 millions de Panaméens, toutes ces choses-là ont toujours été ignorées ou mystérieuses. Le canal était une chose lointaine. Récemment, elle a participé à un festival artistique à l'occasion du centenaire du canal. Elle a ressenti un sentiment d'orgueil, mais elle demeure circonspecte.
Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais j'ai le sentiment d'être loin du canal. Par exemple, le festival. Les autorités ne devraient pas en organiser un tous les 100 ans. Moi, je pense qu'elles devraient mettre en œuvre un canal plus interactif pour que nous nous rapprochions du canal. Car sinon, ce n'est qu'une affaire d'ingénieurs, de touristes. Mais nous, citoyens, on devrait être plus que de simples spectateurs. On devrait être partie prenante. Il faudrait que le canal nous parle, qu'il nous embrasse, pour que nous puissions l'embrasser à notre tour.
Une partie du pays vit dos au canal, Aide entend le montrer. Elle nous amène à Colón, deuxième ville du pays, au nord du canal, côté Caraïbes, c'est-à-dire côté Atlantique. Colón a mauvaise réputation, chômage, drogue, violence. Sur l'avenue principale, il y a beaucoup de gens dans les rues. Cet après-midi, Seferino, qui travaille dans la zone franche voisine, la plus grande des Amériques, n'est pas à son aise.
Comme tu le dis,
regarde, ici, on a un port logistique, une zone franche, un autre port pour la Colombie, et donc il y a plein de travail. Sans compter que le plus gros aéroport de Panama sera bientôt près d'ici, dans la région de Colón. La vérité, c'est que les gens de la ville ne veulent pas bosser. Ils veulent vivre de la drogue et de la délinquance.
En plein centre de Cologne vit la famille des Pellières ayant des aïeuls français. Nestor, père de deux filles, qui a son entreprise de textile, fait attention. Il y a 3 à 4 assassinats par semaine, il est triste pour sa ville. Sa ville qui, malgré la proximité de 3 ports, dont un pour croisière, et de la zone de libre-échange, ne va pas fort.
Moi, je suis content que le canal soit revenu au Panama, mais les gens ne profitent pas de cette souveraineté, car moi, je pense que les gouvernements n'ont pas fait ce qu'il fallait, n'ont pas mis en pratique cette souveraineté. Les ressources du canal ont profité au gouvernement, ça oui, mais pas aux citoyens.
Il n'y a pas qu'à Cologne où on se montre critique au sujet du canal comme patrimoine d'un pays, même si bien sûr tous reconnaissent que cela rapporte beaucoup d'argent au Panama. Domingos est artiste, chanteur, compositeur. Il se produit 2 fois par semaine dans un restaurant du centre-ville de Panama où les banquiers sont les principaux clients.
Se les dijo a la panameñidad y las áreas del canal iban.
Il avait été promis que la zone du canal profiterait aux couches les plus pauvres et populaires de la société. Mais ça n'a pas été le cas. Ce sont les politiques et ceux qui ont le pouvoir économique qui vivent dans le luxe. Il ne faut pas oublier que c'est un endroit stratégique. Si demain il y a une guerre dans la région, il ne fait aucun doute que les États-Unis, qui dominent toujours, envahiraient de nouveau notre pays.
Miguel Antonio Bernal est professeur de droit constitutionnel à l'Université publique de Panama. Très présent dans les médias, il est une des voix connues qui avertit des risques concernant le canal.
Ce canal, on en a toujours rêvé, tout au long de notre histoire centenaire. Mais on n'a pas réussi à le faire nôtre. Il y a 13 ans, finalement, il est revenu entre les mains des Panaméens. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a fait que nous le prêter, car sont arrivées des multinationales étrangères qui veulent se l'arroger. Il y a des intérêts puissants hors des frontières et aussi chez nous qui ne veulent pas que la population panaméenne ait l'usufruit du canal. Si au Panama il ne se produit pas un changement de 180 degrés sur la façon de gérer ce canal, eh bien il faudra prévoir que le pays, pour financer la dette et l'expansion, privatise le chenal. De la même façon qu'on a déjà privatisé ces dernières 2 décennies notre téléphonie nationale et nos cimenteries, entre autres.
L'électricité, le ciment.
Tout le monde n'est pas aussi critique, même au sein de la société civile. C'est le cas d'Alvaro Uribe, un urbaniste de renom qui reçoit dans un restaurant à la mode de la capitale, le Petit Paris, en plein secteur bancaire où les tours avoisinent souvent les 80 mètres de hauteur. Lui voit plutôt un bel avenir pour le canal.
C'est une opportunité, une très belle opportunité de faire de Panama et de la région métropolitaine une ville monde, une ville de premier rang dans les villes dans cette région latino-américaine. On profite de l'existence de l'ancienne zone du canal comme terrain qui appartient à l'État, qui ne sont plus des terrains privés, de la forêt tropicale. Au centre-ville, c'est une chose complètement originale par rapport aux villes latino-américaines qui ont tout perdu du point de vue de la nature à côté de la ville. C'est une partie de la richesse qu'on a. Alors, on peut faire quelque chose de plus créatif sur le rapport culture-nature. Et c'est un défi, quoi.
Abdiel González, chauffeur de taxi depuis 20 ans, se décrit comme un Panaméen lambda. Il vante le quartier historique et ses bâtiments coloniaux et il voudrait, lui, que le canal soit davantage apprécié par ses concitoyens.
Même si le canal a déjà 100 ans d'âge, les visiteurs étrangers sont impressionnés par cette œuvre d'ingénierie. Mais ici au Panama, beaucoup le voient comme si ce n'était qu'un grand fossé avec de l'eau douce dedans. Ils ne lui donnent pas la valeur qu'il mérite. Moi, si, j'en suis conscient. Je sais que c'est une méga construction, il y a de quoi en être fier.
Así que eso hay que apreciarlo.
Abdiel, lui, a amené ses trois enfants et sa femme au canal à plusieurs reprises. Il leur a même fait visiter les travaux d'élargissement vers le lac Gatun, côté Caraïbes. Il sait que si le nom du Panama est célèbre dans le monde entier, c'est bel et bien grâce à l'existence de son canal à écluse. Les Panaméens et leur canal, un grand reportage de François Musso. Réalisation Marc Minatel.
Un reportage signé François Musso. Musique, découvrez tout au long de l'été les artistes en playlist RFI. Aujourd'hui, Lenny Kravitz avec le titre The Chamber, extrait de son dernier album éponyme, qui fait partie de la sélection du mois de nos programmateurs et que l'on retrouve tout l'été en playlist RFI. You feel the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong, should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else. We'll be right back.